Bonjour, nous sommes la classe de seconde NJPF, Nature, Jardin, Paysage et Forêt, à l'Institut Charles Quentin de Pierrefonds.
Notre lycée prépare au métier de la gestion de la forêt et de la faune. Vous pouvez retrouver les informations sur notre école, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet.
Dans le cadre d'un projet pédagogique financé par la région Hauts-de-France, nous avons préparé avec l'équipe de Radio Graphite une interview du groupe The Selenite Band.
Bonjour Antoine, présentez-nous votre groupe.
Dans notre groupe, on a Nicolas, donc, qui est ici, Nicolas qui joue la guitare. Il y a Julien à côté qui joue la batterie. Il y a à côté Marco qui joue le saxophone baryton et aussi de la flûte traversière. Ensuite, on a à côté, il y a Fabrice, donc, qui joue la basse électrique. Et puis, il y a encore d'autres musiciens, parce qu'en fait, on a un collectif. Il y a encore plein d'autres musiciens. Il y a encore un autre Julien. Et forcément, comme il s'appelle Julien, il joue quoi comme instrument ? De la batterie. Il y a encore un autre Julien, un troisième Julien. À votre avis, il joue quoi comme instrument ? La batterie. Mais aussi des percussions. Il joue les congas, en fait, avec nous. Et puis après, on a tout un tas de musiciens plus occasionnels. Cédric, qui joue du saxophone baryton ou du tubax, qui est un saxophone contrebasse, en fait. Thomas, qui joue du trombone. Margot qui joue de la basse, voilà. Et donc moi c'est Antoine et je joue, donc aujourd'hui vous m'avez vu jouer de la flûte traversière, mais dans le groupe je joue aussi d'autres instruments qui vont être des claviers synthétiseurs et ce qu'on appelle un synthétiseur modulaire. Donc, c'est une espèce de boîte bizarre avec plein de fils, on raccorde un peu les choses entre elles et ça fait des sons magiques. Et donc le groupe avec tous ces gens-là, on fait de la musique éthiopienne, ce qu'on appelle de l'éthio-jazz, mais on a une approche, on va dire, moderne. C'est-à-dire on compose en fait des choses, mais en gardant ce qui fait la trame de la musique éthiopienne, c'est-à-dire il y a des modes musicaux. Donc les modes musicaux, c'est 5 notes parmi les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et tous les dièses et les bémols. On en choisit 5, alors pas par hasard, et c'est quand on joue ces mélodies-là, voilà, ça sonne comme la musique traditionnelle éthiopienne. Et donc toutes les musiques que vous avez entendues aujourd'hui, voilà, elles sont toujours dans un mode spécifique qu'on trouve en Éthiopie. Et puis après, on a des grooves, ce qu'on appelle les grooves, c'est les rythmiques, voilà, qui sont des grooves afro, donc qui viennent d'Afrique.
Pouvez-vous nous parler de la genèse du groupe ?
Alors, la genèse du groupe. Je vais vous parler de la genèse tout court. J'aime bien raconter des histoires. Parce que vous allez vous dire... Pourquoi la musique éthiopienne, en fait ? Alors moi, ça remonte à il y a maintenant 25 ans. Je jouais avec un musicien et je faisais de la musique africaine. Je faisais de la musique mandingue. Donc c'est la musique d'Afrique de l'Ouest, plutôt Mali, tout ça. À chaque fois qu'on répétait, Steph, quand il venait chez moi pour répéter, il me ramenait des cassettes. Et un jour, il regarde dans mes disques et il voit mes disques. J'avais des disques des Doors. Et il me dit, Antoine, j'ai de la musique africaine chez moi, mais c'est les Doors d'Afrique. Je dis, ça m'intéresse. Et la semaine d'après, il me ramène une cassette qu'il m'avait fait lui-même, il m'avait enregistré des choses dessus, et c'était que de la musique éthiopienne. Donc il y avait du Mulatu Astatke, Mahmoud Ahmed, Getachew Mekuria, tous les grands noms en fait, de la musique éthiopienne. Ça a été une révélation pour moi, je suis vraiment tombé amoureux de cette musique, et j'ai commencé à chercher tout ce que je pouvais trouver en, fait, en disque sur la musique éthiopienne. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, et j'ai toujours écouté cette musique depuis 25 ans. Et avec les copains comme Marco, Fabrice qui était là, ou Nico, on joue dans d'autres projets musicaux, parce que c'est notre métier, on est musicien. Et à chaque fois dans la voiture, quand je mettais de la musique, je mettais toujours de la musique éthiopienne. Puis les gars, à chaque fois, ouais, c'est bien ça, c'est quoi ? C'est de la musique éthiopienne. Ah, c'est quoi ça ? C'est vachement bien et tout. C'est de la musique éthiopienne. Et puis c'est passé des années, et je crois que c'est en 2019, où... Là, il y avait un creux un peu dans les projets. Moi, j'avais travaillé dans des projets de théâtre qui m'avaient pris beaucoup de temps. Puis quand ça s'arrête d'un seul coup, on n'a plus d'activité. Donc souvent, c'est à ce moment-là qu'on recrée des projets. Puis là, je me suis dit, mais je suis bête, ça fait... J'écoute de la musique éthiopienne tous les jours et je n'ai jamais fait un groupe de musique éthiopienne, en fait. Donc j'ai appelé les copains que j'avais bassiné pendant des années en voiture avec ma musique éthiopienne. Et puis je leur ai dit, ça vous dit qu'on fasse un groupe de musique éthiopienne ? Puis ils m'ont dit oui et c'est comme ça que ça a démarré.
Donc j'avais une autre question, c'était par rapport à votre style musical. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez préciser un peu plus ?
Donc je vous ai dit, on fait de la musique éthiopienne, hein, de l'éthio-jazz, mais pas que. Parce qu'en fait, on la joue à notre manière, on s'approprie cette musique On essaie de créer quelque chose de nouveau à partir de cette racine qu'est la musique éthiopienne. Donc on utilise nos influences musicales. Et moi, par exemple, mes influences musicales, ça va être la musique psychédélique, la musique improvisée, la musique traditionnelle de bourdon, tout ce qui est drone, tout ça, c'est les musiques où il y a une note en, toujours derrière, un peu comme les acouphènes, quoi. J'adore en fait toutes ces musiques-là, musique à bourdon. Je vais aimer le rock, je vais aimer le jazz. Nico, ben voilà, tu peux parler de tes influences.
Plus black music, soul funk, psyché également, parfois plus même metal. Voilà.
Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les musiques noires, en fait. C'est très rythmé. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce que disait Antoine, c'est qu'il y a ce rythme qui est là tout le temps. C'est une musique assez moderne quand même. Même si on parle de musique traditionnelle d'Éthiopie, il y a quand même quelque chose de moderne, même si on vous parle des années 70. Par exemple, la batterie, ce n'est pas un vieil instrument. C'est quelque chose de moderne. Et on peut amener ça dans différents rythmes, comme la musique éthiopienne, en fait. Donc, c'est très, très intéressant de pouvoir faire ce mélange culturel.
Ben moi, mes influences, elles sont essentiellement jazz et musique improvisée. Et puis Frank Zappa, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Mais après, plein d'autres trucs. Mais voilà, chacun ses influences. Et quand on mélange un peu le tout, ça donne des trucs comme ça, comme vous venez d'entendre sur scène.
Alors, je crois qu'il y a encore pas longtemps, sur notre site internet, c'était marqué The Selenite Band, Ethio Jazz, Krautrock, Psychedelic Groove. Tu sais, des étiquettes comme à la FNAC quand tu vas chercher tes disques. Ça, c'est un truc en France, en fait, on aime bien ranger les choses dans des cases, des genres. Ça rassure ou ça oriente les gens quand on cherche quelque chose. Mais en fait, nous, l'étiquette, elle, en tant qu'artiste, hein, elle nous gêne toujours un peu parce que en vrai, nous, on n'est pas jazz ou metal ou en fait, on aime bien la musique en général. Et donc, on va là où on a envie d'aller et c'est ça qui est important.
Est-ce que du coup, Antoine ou quelqu'un d'autre du groupe pourrait nous décrire ce que c'est le krautrock ?
Justement, c'est une étiquette pour désigner la musique un peu sans étiquette qui vient d'Allemagne, en fait. C'est les journalistes anglais qui, dans les années 60-70, appelaient tout ce qui venait musique expérimentale allemande. Ils appelaient ça le krautrock. Le kraut, c'est le chou, hein. Donc c'était le rock choucroute, quoi. C'est comme si on disait la musique, un western spaghetti, c'est un western qui vient d'Italie, voilà. Mais en fait, c'est vraiment une étiquette fourre-tout dans laquelle en fait, on va avoir du jazz, de la musique psyché, du rock progressif, de la musique expérimentale, de la musique électronique, hein, des grands groupes de krautrock, c'est Kraftwerk. Vous connaissez peut-être, qui est vraiment un des pionniers de la musique électronique moderne, on va dire. Donc voilà, c'est ça. C'est une étiquette pour un peu fourre-tout. C'est un cabas dans lequel on met un peu tous les genres de musique. Et nous, on fait de l'éthio-kraut, ce qui est en fait un clin d'œil et à la musique éthiopienne et au krautrock. Voilà.
D'où vient ce nom, The Selenite Band ?
Est-ce que vous savez qui sont les Sélénites ? C'est les habitants imaginaires de la Lune. Bah, une fois que tu as dit ça, tu as tout compris. En fait, nous, ça nous allait bien. On s'est dit, c'est un truc un peu spatial, un peu... tu sais, à l'école, on disait beaucoup... on disait souvent à mes parents, ah, Antoine, il est sur la Lune, quoi. Bon, finalement, l'enseignante, elle n'avait pas complètement tort parce que j'en ai fait mon métier. Et en fait, ça nous allait bien. C'est le côté imaginaire, tu vois. Voilà. Puis on est un peu beaucoup fan de science-fiction dans le groupe. Il y a des... Donc voilà, ça nous causait. Et ce qui était important pour nous, c'était... parce qu'on n'est pas éthiopien. Personne d'entre nous est éthiopien. Et ça nous semblait important de ne pas prendre un nom éthiopien qui allait nous brider justement aussi, peut-être à un moment donné, si jamais on avait envie de faire autre chose à un moment donné que la musique éthiopienne. Donc c'était quelque chose qui est en dehors de tout. Et ça nous correspondait.
Est-ce que vous arrivez à vivre de votre musique ?
Oui. Alors, on a la chance d'être ce qu'on appelle intermittent du spectacle. Voilà, c'est-à-dire, en fait, on est demandeur d'emploi. On est inscrit à France Travail, voilà, on travaille. Et on est payé quand, par exemple, on fait une prestation comme aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, on est payé. Ce qui ne veut pas dire que hier, je n'étais pas payé personnellement, mais on a travaillé quand même. Demain, je ne travaille pas, mais je travaille quand même, en fait. Parce que ce qu'on fait, voilà, sur la musique vivante, bah derrière, c'est du travail. C'est du travail et pour travailler son instrument, ça vous vous en doutez puisque vous nous voyez jouer de l'instrument. C'est du travail pour jouer ensemble, d'accord ? Travail individuel, travail collectif. C'est du travail pour écrire la musique. Et puis écrire la musique, bah, ça ne s'écrit pas comme ça aussi. C'est pas hop, je prends un papier, un crayon et puis d'un seul, bim, j'écris quoi. C'est des fois de la réflexion, c'est essayer des choses, enregistrer des choses, rater. C'est beaucoup de rater en fait. On rate, on rate, on rate. Puis à force de rater, on finit par construire des choses. Et puis une fois qu'on a écrit notre musique, qu'on l'a répétée, qu'on l'a travaillée, il faut aller la jouer. Puis aller la jouer, bah, il ne suffit pas de dire bah, on va aller jouer. Donc c'est aussi, on a un travail un peu de commercial, entre guillemets, qui n'est pas forcément simple pour nous parce que ce n'est pas forcément notre domaine de prédilection, en fait, le commerce. Mais bah, il faut prendre des contacts avec des programmateurs. C'est tout un réseau, en fait. Voilà, il faut aller vendre son travail, en fait. Donc notre boulot, oui, c'est ça. Ça consiste à faire ça. Et moi, ça fait un peu plus de 25 ans maintenant que j'en vis. Toi, Marco, c'est pareil. Voilà, donc... C'est pas toujours simple, mais on en vit, on est là.
Quel morceau de votre répertoire aimez-vous jouer le plus ?
Personnellement, j'adore une reprise qu'on fait d'un standard qui s'appelle Musica Whistled, parce que je joue deux notes, tout le morceau, non-stop. Il n'y a que du rythme. Voilà. C'est un accord, mais c'est même pas un accord, il n'y a que deux notes. Il faut trois notes pour un accord, là, il n'y en a que deux. Donc je fais deux notes non-stop pendant tout le morceau, ça dure longtemps. Mais on s'amuse bien.
Moi, personnellement, c'est le morceau As Maritage. J'aime beaucoup parce que ça passe d'un côté un peu planant à un côté très rythmé. Et d'un coup, il y a un changement dans la rythmique. En fait, c'est assez surprenant. Et enfin, je trouve qu'il est très bien écrit parce qu'au final, il y a une logique en fait, artistique qui me plaît beaucoup. Après, la musique, comme on dit, c'est très personnel, quoi. Mais As Maritage, il me parle beaucoup plus. Bah, tous les autres, je les aime beaucoup, quoi, mais celui-là, il me parle plus, quoi.
C'est difficile de choisir parce qu'il y a plein de morceaux. Tous les morceaux, moi, je les trouve vraiment chouettes. Mais un de ceux que j'affectionne particulièrement, c'est Apollo. Ouais. Pareil, il y a des ruptures, il y a des changements d'ambiance. Et puis, voilà, ça passe par beaucoup de choses différentes, avec beaucoup de grave, beaucoup de puissance et beaucoup de finesse et de délicatesse. Enfin bon, c'est un morceau que j'aime beaucoup.
C'est dur de choisir parce qu'en plus, ce projet, comme c'est moi qui l'ai monté, quasiment la totalité du répertoire, à part les reprises de musique éthiopienne, c'est moi qui les ai écrits. Donc forcément, il y a toujours un petit affect avec tous les morceaux. Non, j'aime bien... Comme vous me demandez de choisir, bah, je ne vais pas choisir. En fait, j'aime bien tout le groupe, en fait. J'aime bien tout ce qu'on joue. We'll be right back.
Y a-t-il des concerts qui vous ont marqué?
Oui, 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 il y en a. Marqué dans quel sens? Dans le bon sens ou dans le mauvais sens?
Les deux.
Il y a les deux. Tiens, je vais partir dans le négatif. C'est un jour, on était en tournée, on avait 3 dates d'affilée, on joue sur un festival. Le sonorisateur, il s'appelait Franck. Franck, on le rencontre, on arrive, il nous raconte son pédigré, quoi, il nous fait son CV. Ça se fait rarement, ça, en vrai, quand tu rencontres les gens, tu dis bonjour, ça va, tu t'intéresses, tu poses des questions sur les gens parce que tu t'intéresses à eux, tu vois. Sauf que lui, c'était ouais, salut, ouais, moi j'ai tourné avec Sting, ouais, moi j'ai tourné avec machin. Il nous sort que des gros noms de showbiz, tout ça. Et puis on commence à faire les balances. Et là, ça commençait à prendre du retard parce que le gars, il ne savait pas brancher 3 câbles. Il ne savait pas les DI, il les avait branchés à l'envers. Enfin, ça ne marchait pas, il y avait un buzz dans la sono. Et on a dû passer mais 2 heures à essayer de faire une balance. Et ça sonnait, c'était vraiment pas bon, quoi. Tout le CV qui nous avait sorti, on voyait que ça ne tenait pas la route parce que le pauvre, il a galéré. Et en fait, le son était vraiment pas agréable et je pense pour le public, c'était pas top. Après, nous, on avait fait un bon concert et puis c'était cool. Et donc voilà. Le lendemain, on arrive sur un autre festival et puis là, on dit bonjour au sonorisateur. Puis le mec dit bonjour, moi, c'est Franck. Alors nous, dans notre tête, on dit bon, on espère que c'est pas le même Franck qu'hier. Et là, c'était pareil que la veille, quoi. Le troisième jour, on arrive, c'était à côté de Lille, là, je sais plus. On arrive, c'est pareil, sur un festival et tout. Puis on croise les personnes de la technique et puis le sonorisateur qui vient nous voir. Salut, je m'appelle Franck. Et là, on se dit, c'est pas possible. Putain, ça va être pourri, quoi. C'est sûr, ça va être pourri, quoi. Devinez quoi. La sono, elle est tombée en panne juste avant qu'on joue. Et il a fallu qu'on joue en acoustique, vous en souvenez, hein? Et on a dit au mec à un moment donné, et le gars, en fait, il ne savait pas se servir de la console, et il avait fait créer un courjou avec le Rio, je ne sais pas quoi, sur le multivers. Il avait flingué la console. Du coup, on a dit, cherche pas de solution, t'inquiète pas, on va jouer acoustique. Et on a descendu nos instruments, on a dit aux gens de s'asseoir autour de nous, en fait. Et puis on a joué comme ça, quoi, comme si on jouait là, devant. Voilà, ça m'a marqué. Ça nous a pas vraiment fait rire, en fait, sur le moment. Parce que c'est un peu des galères, mais en fait, quand on y repense, c'était quand même... c'est marrant, quoi. Voilà. T'en as d'autres, des souvenirs, toi?
Des souvenirs positifs? Ouais. Ah, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé les clubs qu'on a fait en Belgique. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une certaine décontraction, très 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 belge, hein, au final. Et puis surtout des lieux où on retrouve des passionnés de musique et des curieux. Ça, c'est incroyable. Ce sont des petits lieux, mais il y a du monde. Et en fait, ils viennent pour des raisons tout à fait différentes, mais tout le monde a le temps de se rencontrer. Donc je trouve ça génial, moi.
Alors avec Selenite, j'ai quasiment que des bons souvenirs. Mais du coup, parmi tous ces super souvenirs, il y en a 3 que je retiens particulièrement. C'est effectivement le café-concert de Anvers en Belgique. Il y a le café-concert Le Petit Barouf au Mans. Et il y a le concert à Concarneau en première partie de Gong, qui est un groupe mythique et pour nous, hein, et c'était une super soirée.
Jouez-vous parfois d'un instrument africain ou éthiopien sur scène ou en studio?
Il y a 2 choses en fait dans ce qu'on appelle les instruments éthiopiens. Il y a les instruments traditionnels qui sont joués, qui sont utilisés dans la musique traditionnelle éthiopienne, vraiment la musique roots, quoi. Et les instruments qui sont utilisés traditionnellement dans la musique éthio-groove éthiopienne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle l'éthio-jazz, c'est déjà une musique métissée. C'est les Éthiopiens qui se sont appropriés la musique occidentale, notamment le jazz des big bands, mais qui ont joué à leur sauce, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme c'était l'Éthiopie, c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé en Afrique. Mais par contre, il y avait les comptoirs, en fait, comptoirs italiens. Donc, ils avaient tous les instruments des orchestres italiens qui étaient à disposition, en fait, là-bas. Et les claviers italiens, donc c'était les farfisa, les sem, tout ce genre de ces marques de claviers-là. Puis les batteries aussi. Donc en fait, dans les années 50-60, qu'est-ce que les Éthiopiens voulaient faire? Ils voulaient jouer la musique des grands orchestres de Cat Calloway, tout à l'heure t'en parlais, James Brown, Et en fait, ils essayaient de faire la même chose, mais ils se sont appropriés la musique afro-américaine et ils l'ont joué à la manière, à leur manière, et c'est comme ça que cette musique elle, est créée. Donc nous, quand on joue du saxophone, de la flûte, de la guitare, de la batterie et de la basse, on reprend l'instrumentarium tel qu'il était joué en fait, dans les années 50-60 en, fait, en Éthiopie. Donc, d'une certaine manière, on joue les instruments qui sont joués dans la musique éthiopienne. Maintenant, il y a d'autres instruments. Alors là, on n'en a pas et on n'en a pas fait, mais il y a d'autres instruments typiquement éthiopiens, comme par exemple le washint, qui est en fait une flûte oblique qu'on retrouve en Éthiopie, mais qu'on ne retrouve pas que en Éthiopie. Ce genre d'instrument, on retrouve ça au Maghreb, on retrouve ça en Iran, ça va être le ney, en Turquie, ça va être le ney. Ça va prendre d'autres noms, le kawala, ça c'est en Égypte, d'accord, l'Égypte, Soudan, Éthiopie, ouais, tout ça c'est lié. Et puis si on a la Turquie, à côté de la Turquie, il y a la Grèce, la Macédoine, et puis on arrive sur les pays des Balkans, on retrouve ce même type d'instrument, pareil, flûte oblique, qui s'appelle le kaval. Parce que les peuples en fait ont bougé et des instruments en fait on les retrouve partout. Donc j'utilise en fait un de ces instruments. Dans un album, on avait aussi le krar. Le krar qui est une espèce de... On l'appelle aussi la harpe du roi David. C'est une espèce de harpe traditionnelle éthiopienne avec 5 ou 6 cordes. Et en fait, la particularité de cet instrument, c'est qu'on gratte toutes les cordes et on a la main posée dessus pour bloquer les cordes, et quand on relâche la corde, en fait, on va entendre qu'une seule corde. Donc on entend une espèce de rythmique, comme une guitare électrique. Et en fait, Nico, des fois, quand il joue, il fait le style en fait, du krar dans certaines choses que tu fais.
We'll be right back. projet de sortir un nouvel album. Quel en a été le processus de création ?
Là, on est peut-être même presque plus entre deux albums. Alors, effectivement, il y a un album, un deuxième volume live qui est sorti là, qui du coup retranscrit un tout petit peu nos concerts passés. Mais on était, ces derniers temps, on était quand même, à vrai dire, depuis 2 ans maintenant, je pense, hein, quelque chose comme ça. On est sur la création d'un nouvel album. En fait, on avait envie de faire encore autre chose, mais avec la même recette. Toujours les gammes de la musique éthiopienne qui nous inspirent. Et on a voulu aller un petit peu plus loin, en tout cas, dans ce côté mélange. Voilà. Donc là, on est un peu dans un entre-deux albums.
Dans la question, il y avait quel a été le processus, hein, c'est ça ? Le processus de création. Ouais. Le processus, il est différent sur l'album qui va sortir. Parce que le tout premier album, en fait, c'est simple, c'est une idée qui est dans ma tête. J'amène du répertoire, j'écris la musique, on réunit les copains, on fait la musique, on enregistre. D'ailleurs, c'est notre premier concert qu'on enregistre en live. Et puis l'album, il sort 2 mois après et ça fait un carton. C'est comme ça qu'on est devenu connu, en fait. Le deuxième album, c'était il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années ? Il y a eu le Covid. Et le studio dans lequel on devait enregistrer, c'était avec les règles sanitaires, c'était pas possible qu'on enregistre, qu'on se voit tous ensemble. Donc on enregistrait comme ça se fait en studio, c'est-à-dire musicien par musicien. Seulement, vous vous doutez bien que quand on enregistre musicien par musicien, un par un, sans être ensemble, sans s'entendre, il n'y a pas la même connivence que quand on est sur scène et qu'on fait de la musique vivante. C'est pour ça que les albums live, très souvent, ça sonne... pas pareil que les albums studio. Donc notre deuxième album, c'est comme ça, studio d'enregistrement. J'ai tout enregistré, les copains ils sont venus un par un. Avec Nico, on a bricolé, on a fait des montages, on a essayé des choses et tout. On a repassé les morceaux un peu dans tous les sens, comme un puzzle en fait, qu'on a un peu assemblé. Et puis on avait le temps, parce qu'on n'avait que ça à faire, puisque on ne pouvait pas jouer. Et l'album, en fait, le reste des copains, ils l'ont un peu découvert comme ça, quand ils venaient au studio, et puis une fois qu'on avait fini le travail, quoi. Après, on sort un volume 2 en live, parce que pour faire patienter un peu le public, parce qu'aujourd'hui, médiatiquement, si tu ne sors pas un truc tous les ans, tu n'existes plus en fait, aux yeux du public, parce que vous êtes impatients, vous les jeunes, et que une fois que vous avez scrollé 3 trucs sur Instagram ou sur TokTok, en fait, on est déjà mort, on n'existe plus. En fait. Donc, pour continuer d'exister, on a sorti des lives. Voilà. Mais pendant ce temps-là, on a travaillé. Et donc, le processus de l'album qui va sortir... C'est que là, je n'ai pas amené toute la matière et puis les copains, on joue comme ça. On s'est dit, on se prend du temps, on s'enferme, ce qu'on appelle une résidence, en fait, dans un endroit où on va jouer et on part de rien. On part juste de l'expérience qu'on a tous ensemble, en fait, notre expérience commune. Et puis, on a eu une première résidence où on a fait de la musique, on a joué, on a fait tourner des trucs, on a bricolé, on a fabriqué des choses. On a tout enregistré de ce qu'on a fait et il y a des heures et des heures et des heures de bandes à écouter. On s'est fait un premier tri, on a sélectionné des choses. Tiens, ça c'est intéressant. Dans le studio numérique, en fait, on peut prendre les choses et puis les assembler un peu, même des choses qui n'ont rien à voir. Puis on a fait un peu un puzzle comme ça. Puis on a commencé à construire ce qui pourrait ressembler à des trames de morceaux. Puis on a fait une deuxième résidence derrière et puis on a retravaillé par rapport à cette première trame qu'on avait. Et on a essayé d'aller un peu plus loin. Puis il y a des choses, on s'est dit, mauvaise direction, on lâche. Puis on a eu d'autres idées, puis on a continué à bosser. Et puis ensuite, on s'est retrouvé 2 semaines dans un studio d'enregistrement où on pensait finaliser le travail qu'on avait fait d'écriture. Et en fait, il se trouve que notre expérience commune fait qu'on a été hyper efficace au boulot. En fait, on ne le savait pas. Et la qualité du lieu fait qu'en fait, on enregistrait le nouvel album en fait, sans s'en rendre compte. Puis c'est à la fin, une fois qu'on avait tout, on s'est dit, mais en fait, l'album, il est là, quoi. Il y avait juste à... Enfin, juste. Le juste qui prend un an, hein, quand même, de travail. À mixer, masteriser, travailler sur la pochette de l'album. Donc, passer une commande à un artiste plasticien qu'on aimait bien, machin, tout ça. Donc là, le processus, il a été différent parce qu'on est vraiment sur beaucoup plus sur de l'écriture collective et qui avait du sens par rapport à l'histoire du groupe, là où on en arrive aujourd'hui.
En général, cela vous prend combien de temps pour faire un album ?
Il n'y a pas d'en général. Notre premier album, on a fait 2 ou 3 répètes et 15 jours après, on jouait, je crois que c'était les Vœux du Maire, à Saint-Just-en-Chaussée, dans le gymnase. Et c'est notre premier concert. Et on a enregistré notre concert, mixé. Au bout de 2 semaines, l'album, il était fait, il est sorti comme ça. Et c'est l'album qui a eu du succès de Sélénite. Donc tu vois, en 15 jours, en fait, un album, on peut le faire. Si on veut. Celui qui va sortir, il y a eu 2 ans pour écrire. Alors pas parce qu'on est long, en fait, à écrire. C'est aussi parce que nous, on a d'autres projets. Donc là, le prochain album, il y a eu 2 ans d'écriture, 1 an pour tout ce qui est production. Donc production, c'est enregistrement, mixage, mastering, pressage, la com, la pochette, faire la pub, contacter les radios 2 mois avant que ça sorte, sinon ils ne veulent pas vous diffuser à la radio. Ouais, y a plein de choses en fait, il y a plein d'étapes pour la construction d'un album. Et donc, si on met tout bout à bout, je pense que le prochain, depuis l'idée de départ jusqu'au jour où il sort, il y a 3-4 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un album, une fois qu'il sort, souvent, on a tendance à croire que c'est fini, il est sorti. Bah non, c'est là que le boulot, il commence en plus. L'album, il existe pour nous avant, mais il faut quand même, maintenant, il existe pour vous. Donc, il faut jouer pour défendre son album, il faut le faire écouter, contacter des radios pour qu'il soit diffusé, faire des posts sur Instagram, TokTok, tout ça pour... Voilà, pour que l'album vive.
On sait que vous jouez au basket. Quelle équipe préférez-vous ?
J'aime bien les 2 équipes qui sont en finale en ce moment, en NBA. Voilà. Il y a du collectif, il y a tout ça. Donc, bon.
Plus jeune, j'aimais bien Pau Orthez, parce qu'à l'époque, le basket en France n'était pas si développé que ça. Et Pau Orthez, à l'époque, ils avaient des bons résultats pour une équipe française, parce que le niveau a vachement explosé en France ces 2 dernières décennies. Mais moi, je vous parle de ça il y a bien 30 ans. Puis après, bon, bah, en tant que gamin, moi, j'ai eu la chance tous les samedis de regarder Michael Jordan quand il était là à ses grandes heures. Quoi. C'était, je suis resté scotché là-dessus. Quoi. Après, il y avait Shaquille O'Neal, il y avait les Lakers, il y avait plein de monde. Quoi. Il y avait,
Mon équipe de basket préférée en ce moment, moi, je parle vraiment pour la qualité de jeu, c'est le Paris Basketball. J'aime beaucoup leur style de jeu actuel. C'est de la modernité dans le basket moderne. Voilà. Après, je vais répondre exactement comme Nico pour en ce moment en NBA, puisque c'est d'actualité. Mais moi, c'est OKC, quoi. C'est mon équipe quand même de cœur, parce que je suis un grand fan de Kevin Durant quand même, et de Russell Westbrook. Voilà.
Est-ce que c'est sportif de faire de la musique ?
C'est une très bonne question. En fait, il y a Fabrice qui est parti, mais souvent avec Fabrice, nous, on compare le métier qu'on fait à un sportif de haut niveau. Parce que ça demande de l'entretien technique, de l'entretien physique. Donc, s'entretenir techniquement, physiquement, c'est travailler son instrument. C'est le matin, je me lève, je fais mes gammes, comme un basketteur qui va prendre la balle, qui va faire travail d'aisance, qui va travailler proche du panier, qui va répéter ses gammes. Hein, en sport comme en musique, on parle de répéter ses gammes. Oui. Après, il y a tout un travail de jeu collectif. Hein, c'est le fait de jouer ensemble. Voilà. Et puis après, il y a le côté performance. C'est aller gagner son match, nous la performance c'est aller faire un bon concert, s'amuser, s'éclater, prendre du plaisir comme on dit en sport, et puis partager un moment avec le public. Quoi. Donc il y a plein d'analogies en fait entre le métier de musicien et celui de sportif.
Il y a aussi quand on est sur scène une implication physique, quel que soit l'instrument qu'on joue, mais il y a une implication physique pour jouer de l'instrument qui demande un minimum d'énergie. Et notamment, moi, il y a un autre groupe avec lequel je joue, avec lequel on fait beaucoup de musique de rue, où ça demande aussi une énergie un peu particulière. Donc, même la pratique de la musique en prestation ou sur scène, ça nécessite quand même pas mal d'énergie.
Quand sortira votre prochain album et quels sont vos projets futurs ? Y a-t-il des collaborations, des tournées prévues ?
Le prochain album devrait sortir l'automne prochain, au mois de novembre, sous format vinyle sûr, et puis les plateformes. Et les prochains objectifs, ça va être de faire une tournée pour la sortie de l'album, donc de trouver des dates autour de la sortie d'album pour faire une tournée et promouvoir ce nouvel album.
Merci d'avoir accepté l'interview et d'avoir répondu à nos questions. Merci à notre professeur, Madame Lecieux, et à l'équipe de Radio Graphite. Retrouvez cette interview en réécoute sur www.graphite.net. Thank you.